France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, France Inter rend hommage aux victimes du Covid alors que la barre des 100 000 morts sera franchie cette semaine en France. Portraits et reportages tout au long de la journée, dès le début de ce 7-9, Agnès, après les autres titres.
Le jour J pour les plus de 55 ans qui vont pouvoir recevoir une dose d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson. Quelle solution pour faire garder ses enfants durant ses vacances? Une plongée rare dans cette justice de proximité que le garde des Sceaux veut développer. C'est parti! Ce sont les mots prononcés il y a tout juste 60 ans par Youri Gagarin avant de décoller pour le premier vol dans l'espace. Et puis quand un petit coup d'éclat masque une grosse déprime, c'est Benoît Paire à Monte Carlo.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Il faut que ce confinement soit le dernier. Ouvrons tous les commerces le 15 mai prochain. Ne cesse-t-il pas de tweeter pour mettre la pression sur le gouvernement? Sera-t-il entendu? Les commerces vont-ils rouvrir à partir du 15 mai? Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera aller à 8h20 pour réfléchir à la question des femmes et de la crise sanitaire. Trois invités pour en parler ce matin, la gynécologue obstétricienne Rada Hatem, la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Meffer, et la secrétaire générale de la Mutualité Française, j'ai nommé Dominique Joseph. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les premiers morts du Covid en France avaient un nom, un visage, une histoire. Puis l'épidémie s'est emballée et les morts sont devenus des chiffres. 100, 1000, 10 000. Et dans les jours qui viennent, la barre des 100 000 morts devrait être dépassée. La rédaction de France Inter a choisi de dresser le portrait de quelques-unes de ces victimes anonymes emportées par la maladie. Hommage ce matin d'un petit-fils à sa grand-mère. Et c'est un reportage de Béatrice Duguay.
Pour l'état civil, elle s'appelle Christiane. Mais pour Laurent Rabès et tous ses petits-enfants...
C'était Mamoun. On l'appelait Mamoun.
Alors, immortelle dans les albums photos formidables.
J'adore cette photo où elle donne le sein à ce bébé, où on voit la femme qu'elle était, la grand-mère pour nous, mais la mère aussi. Voilà.
Christiane est morte le 6 avril de l'année dernière, à 98 ans, dans sa maison de retraite de Villecresnes, en plein ravage de la pandémie.
C'était les pompes funèbres qui arrivent, et puis qui un sac plastique, enfin une housse, et puis pas de mise en bière, quoi, enfin telle quelle, dans un cercueil, et puis direction Rungis.
Ou une morgue est improvisée dans un hangar des Halles.
Une belle personne qui a eu une si longue vie, qui a été une personne pleine d'amour, et qui pouvait être entourée, je trouve que c'est moche de pas pouvoir le vivre, ça.
Obsèque rude ensuite, à 10 seulement, masqué, à distance, sans étreinte possible. Laurent Rabès balaie aujourd'hui ces tristes moments pour se souvenir juste de la Mamoun de son enfance.
Quand on se voyait dernièrement, j'allais la voir dans sa maison de retraite, on parlait de tous ces souvenirs. C'est toutes ces anecdotes, c'est les cauchemars. Une nuit, je délirais complètement, j'avais de la fièvre, elle a passé sa nuit à veiller. C'est la purée Mamoun, quoi, ça, il y en avait qu'une. C'est son café. Je faisais un café au lait, avec un goût inimitable dans une vieille cafetière. Voilà.
Et les quatre quarts à la confiture. Pour cultiver cette nostalgie heureuse de Christiane, la famille veut se retrouver au restaurant en avril 2022, puisque c'est encore impossible cette année.
Reportage de Béatrice Duguay. Qui sont les morts de la Covid? C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et rendez-vous dans le journal de 7h30. Avec l'hommage cette fois à une personnalité, le chanteur Christophe. Et la nouveauté ce matin, c'est donc le début de la vaccination pour les 55 ans et plus, avec les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ce dernier va intégrer le circuit de la ville. Baisser la tranche d'âge, c'est aussi Daniel Messager, pour vacciner davantage à un moment où l'épidémie continue de croître.
3 millions de doses d'AstraZeneca sont attendues d'ici fin avril. La vaccination va s'élargir et c'est donc à la tranche d'âge des plus de 55 ans que ce vaccin est destiné, puisqu'il n'est pas autorisé pour les plus jeunes. Ce sera sans condition, c'est-à-dire pas lié à une comorbidité. Ils pourront aussi recevoir le Johnson & Johnson. Première livraison aujourd'hui, 200 000 doses, 600 000 d'ici la fin du mois. Un vaccin, rappelle l'infectiologue Odile Launay, au schéma identique à AstraZeneca.
On utilise un vecteur. AstraZeneca, c'est un adénovirus de chimpanzé. Johnson & Johnson, c'est un adénovirus humain, mais c'est la même technologie. Les effets indésirables observés avec AstraZeneca, on est très vigilant pour savoir si ça va être le cas aussi avec ce vaccin. Pour l'instant, les résultats obtenus aux États-Unis n'ont pas mis en évidence de signal particulier, mais ça fait partie bien sûr des choses qui vont être regardées. C'est pour ça que ce vaccin est aussi dans un premier temps réservé aux plus de 55 ans.
Il ne nécessite qu'une seule dose, c'est pour ça qu'il était dans un premier temps fléché plutôt vers les territoires d'outre-mer où l'acheminement est plus compliqué et vers les précaires qui auraient davantage de difficultés à se présenter à une deuxième dose. Mais il y a urgence à vacciner davantage de personnes. Chez les plus de 55 ans, le risque de thrombose est infiniment plus faible que celui de faire un Covid grave.
Et urgence aussi pour les plus âgés. Hors EHPAD, seuls 35% des 75-79 ans ont reçu deux doses de vaccin, 9% des 70-74 ans et 4% des 65-69 ans. Autre nouveauté ce matin, l'arrivée en pharmacie des autotests, une arrivée progressive. Toutes les pharmacies ne seront pas livrées ce matin. Prix de vente 6 euros maximum. Le détail dans le journal de 7h30. Des autotests qui seront également utilisés dans les établissements scolaires après les vacances. En attendant, ce sont les congés scolaires pour tous et à la maison pour beaucoup. Quelques dispositifs existent tout de même, Sonia Princé, pour prendre en charge certains enfants.
Les centres de loisirs seront ouverts pendant les deux semaines pour les enfants dont les parents exercent une profession prioritaire. Les personnels soignants, bien sûr, mais la liste a été élargie à de nombreux métiers. Résultat, beaucoup de familles ont demandé à bénéficier de cet accueil et ont inscrit leurs enfants. La fréquentation sera beaucoup plus forte que lors du premier confinement, d'abord parce qu'il y a davantage de professions prioritaires, mais aussi parce que les parents sont plus rassurés sur les conditions sanitaires. Des élèves pourront aussi participer à des stages de réussite pendant ces congés scolaires. Des élèves en difficulté du primaire au lycée qui suivront sur la base du volontariat 2 heures par jour de remise à niveau par visioconférence à raison de 3 ou 4 fois dans la semaine. L'enseignant, lui aussi volontaire, prendra en charge à distance un groupe de 5 ou 6 élèves. En revanche, rien n'est prévu pour les enfants des quartiers défavorisés. Le ministre avait parlé d'organiser des activités de plein air. Finalement, ce projet n'est pas mis en place. Seules quelques communes proposeront de leur propre initiative un accueil par petits groupes de 6.
Boire une première gorgée de bière en terrasse, un petit bonheur que vont pouvoir s'offrir les Anglais. Après un long hiver confiné, les commerces, les salons de coiffure, les salles de sport et les terrasses de pub rouvrent donc aujourd'hui en Angleterre. Nous serons à Londres dans le journal de 8h.
Il est 7h07, Agnès, c'est la justice du quotidien, celle des incivilités qui gâchent la vie et encombrent les tribunaux.
Alors depuis 2001, des délégués du procureur sont chargés de cette justice de proximité. Ils étaient 1000 l'an dernier, ils seront 2000 dans quelques mois, promet le garde des Sceaux. Comment fonctionne cette justice? Jean-Philippe Degnaud a pu suivre les audiences d'un délégué du procureur dans la banlieue d'Arras. Reportage.
Nous nous rendons au point d'accès au droit qui se trouve à Saint-Nicolas-des-Arras.
Une semaine par mois, Jean-Émile Weizen est délégué du procureur. Gendarme à la retraite, il est aujourd'hui chargé de faire comprendre aux auteurs de petits délits les décisions prononcées par le tribunal d'Arras.
Et des dégradations, des vols simples et de menaces de destruction.
Face au délégué du procureur, Gilbert, il a tiré à la carabine et blessé un chat qui venait chasser dans son élevage de pigeons.
Je suis vraiment pas méchant, je voulais pas le blesser, malheureusement le plomb, j'ai pas tiré sur le chat, le plomb est parti, mais je voulais pas le tuer.
À quelle distance vous l'avez tiré?
J'étais au moins à 30 mètres.
Hein. Vous êtes chasseur?
Ah oui, je suis chasseur, mais avec un plomb de 4-5, je voulais pas le tuer.
Hein. Ah bah, y a plus de place à côté que dedans. Hein. Sur votre excuse de vous avez pas voulu le blesser, je suis pas tout à fait d'accord.
On le tue.
On ne tire pas pour tirer à côté, quoi.
Non.
Je vais vous donner la peine que vous encourez si tant est que vous deviez passer devant le tribunal. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc, le procureur met en œuvre donc le rappel à l'auteur des faits des obligations résultat de la loi, donc avec obligation d'indemniser la victime. 475,95 €. Ça soldera votre dossier.
Très bien.
Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions, monsieur?
Non, très bien.
Pas de questions?
Merci beaucoup.
À la fin de la journée, Jean-Émile Weizen aura gagné une 50aine d'euros pour cette fonction essentielle, dit-il.
Le fait d'être convoqué, c'est quand même important. Il a compris que le dossier peut ressurgir un jour ou l'autre s'il recommence.
Une semaine dans la vie d'un délégué du procureur, c'est le feuilleton de France Inter à suivre toute la semaine à 13h45 dans le 13-14 de Bruno Duvic. 7 religieux, dont une religieuse et un prêtre français, ont été enlevés hier à Haïti. Selon le porte-parole de la conférence des évêques sur l'île, le groupe se rendait à l'installation d'un nouveau curé. Les religieux ont été attaqués près de la capitale, Port-au-Prince. Les ravisseurs réclament une rançon d'1 million de dollars. La police soupçonne un gang armé très actif dans le secteur d'être à l'origine de cet enlèvement. 108 minutes en orbite autour de la Terre, c'était il y a tout juste 60 ans le premier vol dans l'espace. Le 12 avril 1961, Youri Gagarine, le cosmonaute soviétique, entre dans la légende. La Russie a aujourd'hui perdu du terrain dans la recherche spatiale, mais Gagarine, mort en 1968 à l'âge de 34 ans, reste un héros national pour tous les Russes. Correspondance à Moscou de Claude Brouillot.
Youri Gagarine qui souhaite un bon vol à la station de contrôle le 12 avril 1961 dans toute la Russie. La date reste gravée dans toutes les mémoires de ceux qui ont vécu cet instant où le premier homme a volé dans l'espace. Où qu'il soit ce jour-là, dans les villes ou les campagnes, comme Nadejda, 73 ans aujourd'hui, qui passe chaque jour devant la statue du légendaire cosmonaute installée en 1980 à Moscou, juste avant les JO d'été. Nadejda avait 13 ans à l'époque, au cœur du régime soviétique, tellement fier d'avoir devancé les Américains.
Pour que les Américains sachent qu'ils ne sont pas toujours les premiers, c'est tout. J'étais écolière et on a sauté sur nos tables quand on a appris la nouvelle. À l'époque, ce n'était pas important qu'ils soient des nôtres ou pas des nôtres.
60 ans plus tard, l'image du héros national Gagarine reste intacte. En Russie, la salle du musée de l'espace dans la capitale russe a fait peau neuve pour l'occasion. Au milieu des combinaisons du cosmonaute figurent sa table et sa chaise d'écolier, son acte de naissance légué par sa fille, des outils de travail du jeune Gagarine quand il n'était encore qu'un apprenti métallo. On en oublierait presque l'usage propagandiste de son exploit à l'époque, ou encore que le père du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev, était un miraculé du goulag stalinien. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et pour célébrer cet anniversaire, Vladimir Poutine doit se rendre à Engels, à un peu plus de 700 km au sud-est de Moscou, sur le site de l'atterrissage du cosmonaute, où un mémorial a évidemment été édifié. À 83 ans, Anthony Hopkins décroche le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie des BAFTA à Londres, récompense britannique du cinéma à 2 semaines des Oscars. Hopkins qui coiffe sur le poteau Tahar Rahim et Matt Mikkelsen. Il est récompensé pour son interprétation d'un vieil homme sombrant dans la démence, dans The Father du français Florian Zeller, qui décroche aussi le prix du meilleur scénario adapté. L'américaine Frances McDormand est elle sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Nomadland, film qui obtient en tout 4 récompenses. Lui a endossé le rôle du mauvais perdant hier en conférence de presse. Benoît Paire, le trublion du tennis français, a perdu dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, après 3 heures d'un match sans saveur face à l'Australien Jordan Thompson. Et c'est après la rencontre que le Français s'est lâché sur son ras-le-bol de la situation.
Ça ne m'apporte rien à part un peu plus d'argent. Quel plaisir y a à jouer. Alors oui, pour les rats morts du tennis, c'est sûr que c'est génial de venir jouer ici. Mais quel est le plaisir à jouer dans des conditions pareilles? Alors, les joueurs qui sont là et qui me disent qu'ils prennent du plaisir à jouer à Monte-Carlo, franchement, mais quelle tristesse pour eux, parce que vraiment dire ça, alors que c'est un court qui est normalement le plus beau du monde, et là se retrouver comme si c'est une ambiance de cimetière, pas un bruit, tu fais un coup gagné à un point, une faute directe, c'est la même chose, il se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale, ben très bien. Ben moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment, et là, le circuit, il est à chier pareil. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je mets pas mon masque, et là, je me sens heureux.
C'est clair, c'est Benoît Paire. Propos recueillis par Fabrice Hebgras. Les 3 Français sont à l'affiche aujourd'hui du Masters 1000 de Monte-Carlo. Hugo Humbert, Jérémy Chardy et Lucas Pouille.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes avec aujourd'hui un reportage au cœur de la BAC de Rouen.